Examen de français. Niveau supérieur. Partie numéro 1. Vous allez entendre un texte. Avant l'écoute, lisez la feuille point par point. Pour la lecture, vous avez une minute. Après la lecture, écoutez le texte et pendant l'écoute, prenez des notes. Vous allez écouter le texte deux fois. Après chaque écoute, vous avez deux minutes pour remplir la feuille du candidat. Écrivez vos réponses sur la feuille du candidat. Maintenant, vous avez une minute pour la lecture de la partie numéro 1. Première écoute.
C'était l'une des promesses électorales de Lionel Jospin pendant la campagne des législatives de 97. Celui qui allait devenir Premier ministre promettait de faire passer la durée hebdomadaire du travail de 39 à 35 heures. Depuis un peu plus d'un an, les 35 heures sont effectives dans la plupart des grandes entreprises et elles le seront bientôt dans les PME. Avec le passage aux 35 heures, de nouvelles initiales ont fait leur entrée dans le vocabulaire et dans le dictionnaire RTT. RTT pour récupération du temps travaillé. Trois lettres qui révolutionnent beaucoup de choses et surtout notre manière de consommer les loisirs, comme a pu le constater Valérie Lerouge.
Qu'elles créent ou non des emplois, les 35 heures changent la vie. Aujourd'hui, 4 salariés sur 5 jugent leur nouvel emploi du temps positif ou très positif pour eux personnellement, selon un récent sondage de la Sofres. Principal bénéficiaire, la vie de famille. 68% des femmes utilisent leur RTT pour se consacrer aux enfants. Les hommes ne sont pas en reste, à l'image de Jean-François, 38 ans, responsable informatique à Rueil-Malmaison.
Dans mon quotidien, c'est plus de temps pour moi et pour les enfants. C'est-à-dire que c'est maintenant la possibilité d'avoir des jours où je les emmène à l'école, ce que je faisais pas du tout avant, et du temps pour des courses ou des choses que j'ai pas le temps de faire en dehors ou que l'on fait de manière plus souple et plus agréable que le rush du samedi ou du week-end.
Plus de temps pour la famille et pour soi. Les clubs de remise en forme croulent sous la demande. Au Gymnase Club, les inscriptions ont augmenté de 15% en un an et Pedro Randez, le président de la société, constate un changement des habitudes de sa clientèle.
Depuis la mise en place des 35 heures, on a constaté qu'on a désormais des gens qui viennent entre 10h et midi et on constate surtout que la courbe de fréquentation forte de fin d'après-midi commence dès 17h et non plus seulement à partir de 18h. On a un autre constat, c'est qu'on a désormais des demi-journées, le vendredi après-midi, le lundi ou le mercredi, sur lequel on a plus de fréquentation que les années précédentes. Et c'est d'autant plus vrai depuis septembre 2000, c'est-à-dire à partir du moment où les salariés, je pense, ont intégré ce temps supplémentaire qui leur a été donné par les 35 heures, et que peut-être après s'être posé des questions sur l'usage de ce temps, ont décidé de s'occuper d'eux-mêmes, de se soigner, de faire du sport, et de conserver ce temps pour eux-mêmes et non pas pour les autres.
Enfin, les salariés se redécouvrent une passion pour l'escapade. La demande pour les week-ends de 3 jours à Venise, Tunis ou Marrakech explose. Dans ce créneau, Jacques Maillot, le président de Nouvelles Frontières, enregistre une croissance de 25%.
D'abord, des clients très fidèles de Nouvelles Frontières et aussi quand même un pourcentage significatif de nouveaux clients. Et à la fois, je dirais, des petits et moyens salariés, à condition que le prix soit ultra compétitif. Et alors, il y a un phénomène aussi qu'il faut souligner, beaucoup de cadres qui utilisent leur jour d'RTT et même qui décident à la dernière minute de partir le jeudi midi ou le jeudi soir.
Mais certains salariés aiment tellement les 35 heures qu'ils les font deux fois par semaine. C'est le revers de la médaille, une intensification du travail et une pression sur les horaires pour jouir de quelques journées de congés supplémentaires. Difficile aujourd'hui d'en évaluer le prix en termes de stress et de fatigue.
Deuxième écoute.
C'était l'une des promesses électorales de Lionel Jospin pendant la campagne des législatives de 1997. Celui qui allait devenir Premier ministre promettait de faire passer la durée hebdomadaire du travail de 39 à 35 heures. Depuis un peu plus d'un an, les 35 heures sont effectives dans la plupart des grandes entreprises et elles le seront bientôt dans les PME. Avec le passage aux 35 heures, de nouvelles initiales ont fait leur entrée dans le vocabulaire et dans le dictionnaire RTT. RTT pour récupération du temps travaillé. Trois lettres qui révolutionnent beaucoup de choses et surtout notre manière de consommer les loisirs, comme a pu le constater Valérie Lerouge.
Qu'elles créent ou non des emplois, les 35 heures changent la vie. Aujourd'hui, 4 salariés sur 5 jugent leur nouvel emploi du temps positif ou très positif pour eux personnellement, selon un récent sondage de la Sofres. Principal bénéficiaire, la vie de famille. 68% des femmes utilisent leur RTT pour se consacrer aux enfants. Les hommes ne sont pas en reste, à l'image de Jean-François, 38 ans, responsable informatique à Rueil-Malmaison.
Dans mon quotidien, c'est plus de temps pour moi et pour les enfants. C'est-à-dire que c'est maintenant la possibilité d'avoir des jours où je les emmène à l'école, ce que je faisais pas du tout avant, et du temps pour des courses ou des choses que j'ai pas le temps de faire en dehors ou que l'on fait de manière plus souple et plus agréable que le rush du samedi ou du week-end.
Plus de temps pour la famille et pour soi. Les clubs de remise en forme croulent sous la demande. Au Gymnase Club, les inscriptions ont augmenté de 15% en un an. Et Pedro Randez, le président de la société, constate un changement des habitudes de sa clientèle.
Depuis la mise en place des 35 heures, on a constaté qu'on a désormais des gens qui viennent entre 10h et midi. Et on constate surtout que la courbe de fréquentation forte de fin d'après-midi commence dès 17h et non plus seulement à partir de 18h. On a un autre constat, c'est qu'on a désormais des demi-journées, le vendredi après-midi, le lundi ou le mercredi, sur lequel on a plus de fréquentation que les années précédentes. Et c'est d'autant plus vrai depuis septembre 2000, c'est-à-dire à partir du moment où les salariés, je pense, ont intégré ce temps supplémentaire qui leur a été donné par les 35 heures, et que peut-être après s'être posé des questions sur l'usage de ce temps, ont décidé de s'occuper d'eux-mêmes, de se soigner, de faire du sport, et de conserver ce temps pour eux-mêmes et non pas pour les autres.
Enfin, les salariés se redécouvrent une passion pour l'escapade. La demande pour les week-ends de 3 jours à Venise, Tunis ou Marrakech explose. Dans ce créneau, Jacques Maillot, le président de Nouvelles Frontières, enregistre une croissance de 25%.
D'abord, des clients très fidèles de Nouvelles Frontières et aussi, quand même, un pourcentage significatif de nouveaux clients. Et à la fois, je dirais, des petits et moyens salariés, à condition que le prix soit ultra compétitif. Et alors, il y a un phénomène aussi qu'il faut souligner, beaucoup de cadres qui utilisent leur jour d'RTT et même qui décident à la dernière minute de partir le jeudi midi ou le jeudi soir.
Mais certains salariés aiment tellement les 35 heures qu'ils les font deux fois par semaine. C'est le revers de la médaille, une intensification du travail et une pression sur les horaires pour jouir de quelques journées de congés supplémentaires. Difficile aujourd'hui d'en évaluer le prix en termes de stress et de fatigue.
Vous avez encore 2 minutes pour remplir la feuille du candidat. Fin de la partie numéro 1. Partie numéro 2. Vous allez entendre un texte. Avant l'écoute, lisez les informations sur la feuille. Pour la lecture, vous avez 2 minutes. Après la lecture, écoutez le texte et pendant l'écoute, choisissez la lettre de la réponse convenable, A ou B ou C. Vous allez écouter le texte 2 fois. Après la première écoute, vous avez 2 minutes et après la deuxième écoute, 1 minute pour remplir la feuille du candidat. Écrivez vos réponses sur la feuille du candidat. Maintenant, vous avez 2 minutes pour la lecture de la partie numéro 2. Première écoute.
La moitié de la population mondiale est citadine. Interview avec l'expert de l'ONU.
Quel est le sujet de ce rapport du fonds de l'ONU ?
La Terre compte 3,3 milliards de citadins, 4 fois plus qu'en 1950. Et en 2007, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les citadins sont plus nombreux que les compagnards. Selon le rapport annuel du Fonds des Nations Unies, pour la population, cette croissance urbaine n'est pas achevée. Les villes devraient regrouper en 2030 près de 5 milliards d'habitants. Cette augmentation se fera à 93% dans le tiers-monde, particulièrement en Asie et en Afrique. Problème, elle se composera de pauvres, qui se retrouveront le plus souvent dans des bidonvilles dans lesquelles on observe des situations qui peuvent dépasser la misère de la révolution industrielle.
À quel niveau de concentration doit-on penser ?
Les bidonvilles rassemblent 1 milliard d'humains qui vivent dans des conditions précaires, dans un environnement insalubre, caractérisé notamment par une eau rare et chère. C'est un fait majeur. La pauvreté en ville est devenue aussi importante que dans les campagnes.
Et quelles en sont les causes ?
Le modèle urbain, qui suppose une amélioration du niveau de vie, semble ne plus fonctionner. Rares sont les villes des pays en développement qui créent suffisamment d'emplois pour répondre à la demande de leur population croissante.
Qu'est-ce que les chercheurs à l'Institut national d'études démographiques disent à ce sujet ?
Selon les chercheurs à l'INED, on pense toujours qu'on se trouvera mieux en ville, surtout que la division à chaque génération des parcelles cultivables dans les campagnes les rend trop petites pour qu'elles soient viables. Si l'urbanisation continue malgré la misère en ville, l'explication est à chercher dans l'absence de soutien à l'agriculture. Les politiques imposées par le FMI et la Banque mondiale ont continué à entraîner l'exode de surplus de main-d'œuvre rurale vers les bidonvilles urbains, alors même que les villes cessent de fonctionner comme des machines à créer de l'emploi.
Cette concentration grandissante a des effets sur d'autres domaines, n'est-ce pas ?
Bien sûr, une autre caractéristique de la nouvelle révolution urbaine est que son impact environnemental est maintenant très perceptible. D'une part, les villes subissent les nuisances environnementales créées par le développement mal contrôlé. Le changement climatique va aussi aggraver les conditions de vie en augmentant le phénomène d'îlots de chaleur que génère la concentration urbaine en multipliant les inondations ou les glissements de terrain. L'étalement urbain dévore les terres agricoles et, par les transports qu'il multiplie, génère une pollution atmosphérique importante et l'émission de gaz à effet de serre. Les modes actuels de croissance urbaine sont de plus en plus gros consommateurs de terres.
Y a-t-il une cité modèle durable ?
Nous considérons maintenant qu'une ville durable est une ville compacte, mais cela ne peut se faire sans une politique active. Il n'y a pas de main invisible qui viendra ordonner la croissance urbaine conformément aux besoins sociétaux, aux responsabilités intergénérationnelles.
Dans votre rapport, vous parlez aussi des mégavilles.
Oui, 4 des 10 mégavilles, au moins 10 millions d'habitants, se trouvent en Asie du Sud. L'Asie abrite les 3/5 de la population mondiale, mais c'est l'Afrique qui connaîtra la plus forte croissance démographique durant les prochaines décennies. Notre rapport relève que même si l'attention est accordée aux 20 mégavilles du monde, plus de la moitié des citadins de la planète vivent dans des villes de taille moyenne, de moins de 500 000 habitants. Ces villes disposent de terrains non aménagés et possèdent le potentiel économique pour faire face aux chocs démographiques. Mais elles sont handicapées par l'inhabitabilité des logements et l'insuffisance en eau et d'assainissement.
Alors, quelle est l'issue que vous proposez dans votre rapport ?
Notre rapport plaide ainsi pour une relance des politiques urbaines qui acceptent le phénomène des migrations et améliorent leur accueil. La contradiction ne peut être levée que par une action déterminée de la communauté internationale.
Deuxième écoute.
La moitié de la population mondiale est citadine. Interview avec l'expert de l'ONU.
Quel est le sujet de ce rapport du fonds de l'ONU ?
La Terre compte 3,3 milliards de citadins, 4 fois plus qu'en 1950. Et en 2007, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les citadins sont plus nombreux que les compagnards. Selon le rapport annuel du Fonds des Nations Unies, pour la population, cette croissance urbaine n'est pas achevée. Les villes devraient regrouper en 2030 près de 5 milliards d'habitants. Cette augmentation se fera à 93% dans le tiers-monde, particulièrement en Asie et en Afrique. Problème, elle se composera de pauvres qui se retrouveront le plus souvent dans des bidonvilles dans lesquelles on observe des situations qui peuvent dépasser la misère de la révolution industrielle.
À quel niveau de concentration doit-on penser ?
Les bidonvilles rassemblent 1 milliard d'humains qui vivent dans des conditions précaires, dans un environnement insalubre, caractérisé notamment par une eau rare et chère. C'est un fait majeur. La pauvreté en ville est devenue aussi importante que dans les campagnes.
Et quelles en sont les causes ?
Le modèle urbain, qui suppose une amélioration du niveau de vie, semble ne plus fonctionner. Rares sont les villes des pays en développement qui créent suffisamment d'emplois pour répondre à la demande de leur population croissante.
Qu'est-ce que les chercheurs à l'Institut national d'études démographiques disent à ce sujet ?
Selon les chercheurs à l'INED, on pense toujours qu'on se trouvera mieux en ville, surtout que la division à chaque génération des parcelles cultivables dans les campagnes les rend trop petites pour qu'elles soient viables. Si l'urbanisation continue malgré la misère en ville, l'explication est à chercher dans l'absence de soutien à l'agriculture. Les politiques imposées par le FMI et la Banque mondiale ont continué à entraîner l'exode de surplus de main-d'œuvre rurale vers les bidonvilles urbains, alors même que les villes cessent de fonctionner comme des machines à créer de l'emploi.
Cette concentration grandissante a des effets sur d'autres domaines, n'est-ce pas ?
Bien sûr, une autre caractéristique de la nouvelle révolution urbaine est que son impact environnemental est maintenant très perceptible. D'une part, les villes subissent les nuisances environnementales créées par le développement mal contrôlé. Le changement climatique va aussi aggraver les conditions de vie en augmentant le phénomène d'îlots de chaleur que génère la concentration urbaine en multipliant les inondations ou les glissements de terrain. L'étalement urbain dévore les terres agricoles et, par les transports qu'il multiplie, génère une pollution atmosphérique importante et l'émission de gaz à effet de serre. Les modes actuels de croissance urbaine sont de plus en plus gros consommateurs de terres.
Y a-t-il une cité modèle durable ?
Nous considérons maintenant qu'une ville durable est une ville compacte, mais cela ne peut se faire sans une politique active. Il n'y a pas de main invisible qui viendra ordonner la croissance urbaine conformément aux besoins sociétaux, aux responsabilités intergénérationnelles.
Dans votre rapport, vous parlez aussi des mégavilles.
Oui, 4 des 10 mégavilles au moins 10 millions d'habitants se trouvent en Asie du Sud. L'Asie abrite les 3/5 de la population mondiale, mais c'est l'Afrique qui connaîtra la plus forte croissance démographique durant les prochaines décennies. Notre rapport relève que même si l'attention est accordée aux 20 mégavilles du monde, plus de la moitié des citadins de la planète vivent dans des villes de taille moyenne, de moins de 500 000 habitants. Ces villes disposent de terrains non aménagés et possèdent le potentiel économique pour faire face aux chocs démographiques. Mais elles sont handicapées par l'inhabitabilité des logements et l'insuffisance en eau et d'assainissement.
Alors, quelle est l'issue que vous proposez dans votre rapport ?
Notre rapport plaide ainsi pour une relance des politiques urbaines qui acceptent le phénomène des migrations et améliorent leur accueil. La contradiction ne peut être levée que par une action déterminée de la communauté internationale.
Vous avez encore une minute pour remplir la feuille du candidat. Fin de l'épreuve.